wake me up.
Dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire. Oui dire.
Oui dire. Sur Radio Campus 93.3.
Oui dire.
Bienvenue à toutes les oreilles qui nous écoutent. Bienvenue sur Radio Campus 93.3. Et surtout, bienvenue dans l'émission Oui Dire, consacrée aux arts de la parole, à la littérature orale, aux artistes conteurs. Et justement, aujourd'hui, nous recevons un conteur, Didier Kowarski. Bonjour Didier.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Alors, vous ne le voyez pas, mais en fait, il est très impressionnant. Du coup, je me suis entourée d'acolytes tout aussi impressionnants pour procéder à son interrogatoire. Pour m'assister, voici tout d'abord Fred, plus connu sous le nom de Fred à la langue pendue, qui cuisinera notre invité et nous tiendra au courant des actualités du conte dans la région et même au-delà des frontières auvergnates. Bonjour Fred.
Bonjour Fred.
Et puis nous avons Pierre, les gros bras, notre garde du corps, planqué derrière la vitre des studios. Salut Pierre.
Salut.
Il est impressionnant, hein Didier ?
Très impressionnant, je suis très impressionné par tout le monde.
Attendez, il y a aussi Monique, dite Monique l'œil de guépard, qui aidera Fred dans l'annonce des actualités en fin d'émission. Et puis, pour assurer la bonne conduite de l'émission, nous avons Christine, le cerveau de l'affaire. Bonjour Christine.
Bonjour tout le monde.
Et puis, nous a rejoint l'énigmatique Pierre, qui nous posera une magnifique énigme en fin d'émission. Bonjour Pierre.
Bonsoir.
Oh là là, il fait peur lui aussi. Je ne raconte pas, nous sommes entourés d'êtres très impressionnants. Je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout de cette émission. Bienvenue à tous. Alors, on va avoir plein de jolies surprises dans cette émission. Tout d'abord, eh bien, Didier Kowarski va se livrer à Fred. Et puis, peut-être même qu'il nous racontera une petite histoire. Ça sera la surprise. Et puis, bien sûr, de la musique, les actus et tout ça et tout ça. Et bientôt, nous allons commencer l'interview juste après une petite virgule. Merci Pierre.
Oui dire, Radio Campus 93.3.
Alors bonjour Didier Kowarski, donc nous sommes très heureux de t'accueillir sur Oui dire, notre émission consacrée à l'oralité, donc sur Radio Campus.
Bonsoir Frédéric.
Alors tu vas nous parler un peu de toi bien sûr, tu as été comédien, clown, avant de t'engager je crois dans la voie du conte. Alors, tu vas nous dire comment se rejoignent-ils
le comédien, le clown, le conteur ?
Voilà.
C'est une bonne question. Tu vois,
Fred, c'est une bonne question.
Non, c'est une bonne question parce que moi, j'ai toujours pensé que le clown et le conteur étaient les deux pôles de la scène. C'est-à-dire que entre le clown et le conteur, il y a le monde entier de la scène. Il y a toutes les postures qu'on peut avoir en scène. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le clown et le conteur, c'est exactement l'opposé. Mais c'est tellement opposé qu'ils sont touche-touche, quoi. Ils sont dos à dos. Je n'ai pas eu de période où j'étais clown. Mais j'ai pratiqué le clown, ça m'arrive de temps en temps, tous les 3-4 ans, il y a mon clown qui refait apparition. Mais sur scène, sans cesse, je passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire que sans cesse, le conteur invente des mondes dans lesquels le clown se retrouve perdu, égaré. Et donc le clown est l'explorateur, le conteur est l'inventeur, et sans cesse ça passe le relais de l'un à l'autre, un peu comme le relais passe du masculin au féminin et toutes ces choses-là. Donc le clown, même s'il apparaît pas, il est sous-jacent. Ouais. Et pour moi, je dis que c'est l'opposé parce que le conteur, à mon sens, il invente un monde et il emmène tout le monde dedans. Donc il est partout chez lui. C'est lui qui invente le monde. Alors que le clown, c'est exactement le contraire. Il n'a pas le droit à l'existence, le clown. Il n'a pas d'univers, il n'a pas de monde à lui. Et même, j'ai même une théorie concernant les grandes chaussures du clown. À mon avis, si le clown met des grandes chaussures, c'est parce que le seul territoire auquel il a le droit, c'est la semelle de ses chaussures.
Oh, que c'est joli ça.
Tu veux dire que le clown, il subira le monde et le conteur, c'est lui qui va tirer les ficelles?
Ah non, 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 c'est pas parce qu'il invente qu'il va tirer les ficelles. Inventer, pour moi, c'est dans le sens de, archéologique de découvrir quelque chose. Donc au fur et à mesure, le conteur déploie les mondes qui existent. Il est témoin, il reflète le monde et sans cesse, donc il l'invente, il le fait venir là où il est. Le clown, il essaye désespérément de faire croire qu'il fait partie du monde. Mais personne n'y croit. Ça n'existe pas, un clown. Dans la rue, on voit des conteurs. On ne voit pas des clowns. Le clown, il a un point rouge au milieu du visage qui sans cesse le désigne à tout le monde. Et si jamais on lui retire son nez, il disparaît, il s'évanouit, il n'est plus là. Donc il est en état de fragilité. Et les enfants le savent bien. Les enfants, il m'arrive moi plusieurs fois en clown que des enfants qui soient là n'en remarquent aucune particularité à ma présence. Ils voient quelqu'un d'un petit peu particulier, mais c'est tout. Ils ne sont pas au spectacle avec le clown. Sauf quand le clown, il fait peur et puis il envoie des tartes à la crème ou des tartes tout court autour de lui. Mais bon, enfin, on pourrait parler du clown, mais on va parler du conteur plutôt. Ouais.
Alors justement, tu dis le conteur découvre. Donc... tu es un conteur, bon, toujours en recherche, tu as toujours le souci de surprendre. Bon, tout à l'heure, quand on est monté par l'escalier de Radio Campus, tu regardais tout ce qui se passait, tu observes beaucoup et tu aimes, il me semble, quand il se passe quelque chose d'inattendu sur scène, un portable qui sonne ou autre. En fait, tu n'es pas que dans ton histoire, tu affectionnes le déséquilibre, dirait-on.
C'est justement pour... m'enraciner dans l'histoire. C'est-à-dire que tout ce qui se passe tout ce qui se passe dans le moment où je raconte une histoire enracine l'histoire dans le réel et dans l'instant qu'on est en train de partager. J'ai pas du tout le souci de surprendre. C'est pas du tout quelque chose... De même que j'ai pas du tout le souci de faire rire, il se trouve que l'histoire que je raconte, elle passe par le rire. Mais je cherche pas du tout à faire rire. C'est quand tu dis les événements inattendus, impromptus, effectivement, quand on raconte une histoire, pour moi, il n'y a pas de convention. Puisque j'ai dit au départ, je vais vous raconter une histoire. Donc on est d'accord, on part ensemble. Et tout ce qui se passe dans ce temps-là où je raconte une histoire souligne qu'on est bien inscrit dans la même réalité, qu'on partage la même réalité. S'il y a une échelle qui tombe sur la scène au moment où je suis en train de raconter une histoire, pour moi, c'est un plus. C'est-à-dire que ça inscrit ce que j'étais en train de raconter, et ça nous inscrit dans la relation, dans la réalité qu'on est en train de partager, au-delà de la fiction ou de la poésie qui se trouve dans l'histoire.
Oui, mais tu attaches quand même une grande importance à l'improvisation. Aussi, non?
Alors, non, j'aime pas ça, moi, l'improvisation.
Ah bon?
C'est-à-dire dès qu'on parle d'improvisation, on a tendance à entendre une performance, voire un sport. Or, pour moi, l'état juste et légitime sur scène, dans un temps de spectacle, que ce soit dans un bistrot avec un mètre carré, dans une bibliothèque, sur une place de village ou sur une scène de 12 mètres d'ouverture. Pour moi, l'état juste et légitime, c'est l'état d'improvisation. C'est la posture d'improvisation. Mais maintenant, l'improvisation en elle-même, bah, c'est pas du tout quelque chose dont je me targue. Pour moi, un comédien avec un texte, une mise en scène, des déplacements, des partenaires, des décors, des costumes, etc., légitimement, il devrait être sans cesse en état d'improvisation. C'est-à-dire que les mots qu'il a à dire, dans certaines places, certains positionnements qui ont été dessinés par la mise en scène, de façon plus ou moins serrée, il devrait s'inventer sur le moment où il les prononce. Là, à ce moment-là, véritablement, on est dans le spectacle vivant. De même que... Alors maintenant... Que les mots surgissent sur le moment où qu'ils aient été prévus, pour moi, ça ne change rien. La posture d'improvisation est en amont du matériau qui s'invente sur le moment où on le découvre. Pour moi, même si je raconte une histoire pour la 150e fois, si ça n'est pas la première fois que cette histoire s'invente, au moment où je l'invente, il y a quelque chose qui cloche.
Et tu veux dire que l'état d'improvisation, donc c'est être dans un état d'ouverture au monde et au présent.
Ah, complètement, ouais.
Être prêt à... C'est-à-dire pas, donc, ne pas provoquer, comme tu disais, attendre l'événement imprévu, mais être en état d'ouverture qui permet d'accueillir tout ce qui se passe et pouvoir recréer comme ça à chaque fois.
Et même, je dirais plus loin que ça, je dirais que tout est du domaine de l'imprévu. C'est-à-dire arriver à cette posture où un événement, disons, inattendu vient changer le cours des choses, que cet événement-là ne soit pas plus ou moins particulier que la petite maison dont je parlais à l'instant d'avant. Que cette petite maison, elle soit aussi singulière et inattendue que l'éternuement ou le petit qui sort parce qu'il a envie de faire pipi ou tout événement qui effectivement ne sont pas répertoriés dans les moments du spectacle.
Mais du coup, tu te sers à chaque fois des improvisations des spectateurs ou du matériel défaillant que tu peux trouver sur scène par moment ou tu laisses passer?
Disons que je laisse passer. C'est-à-dire qu'on s'en sert, ça nous rallie, tu vois. Ce sont des événements qui nous rallient, ces surprises-là. Alors, quelquefois, ça vient pile en résonance avec ce qui est en train de se raconter. À ce moment-là, je vais m'abstenir, bien sûr, de le faire remarquer, puisqu'on vient de le remarquer tous ensemble. Mais j'essaie justement de ne pas trop me servir. Si jamais il y a une cloche... J'adore ça, le son des cloches. Si jamais il y a un clocher à côté, il y a une cloche qui sonne, je vais subrepticement écarter un peu les mailles de ma parole pour laisser entendre cette cloche-là. Mais je ne veux pas dire « Et à ce moment-là, la cloche a sonné !» Histoire d'en faire quelque chose.
Voilà.
Il n'y a pas besoin de mettre le point sur les « i ». On participe tous à cette réalité qui est en train de se dérouler. Donc voilà, c'est ce qui nous rallie, c'est ce qui nous relie.
Oui, c'est pas forcément par la parole, c'est juste par l'instant et le partage. Quoi.
Voilà, l'écoute. Et il n'y a rien de plus plaisant que de partager un rire jubilatoire qui n'est pas explicité par tel ou tel mot.
Donc en fait, chaque représentation, malgré la même mise en scène, serait unique?
Complètement, bien entendu. Si elle n'est pas unique, ce n'est pas la peine de la faire. Si ça a déjà été fait... dans les autres présentations, c'est pas la peine de revenir le faire.
Alors Didier, j'ai eu le grand plaisir de faire un stage à Vassivière avec toi. Oui, dont j'ai un bon souvenir. Et tu nous entraînais beaucoup à décrire ce qu'on voulait donner à voir, être au plus près de la réalité. Tu pourrais nous en dire un peu plus?
Je pense que vous connaissez l'étymologie du mot « conter ».
Alors ?
Non ?
Si, parce que j'ai fait un stage avec toi.
Oh, il y a très chaud.
Conter, ça vient de computare, en latin, qui a donné compter, C-O-M-T-E-R, et compter, C-O-M-P-T-E-R. C'est-à-dire que c'est la même origine. Et ça se connecte tout simplement parce que, par la notion d'énumérer. C'est-à-dire d'énumérer les choses qu'il y a dans le monde. Donc, raconter, c'est énumérer, donc c'est décrire. Donc, à la fois, c'est la nature même de ce qu'on fait, c'est décrire le monde. Et d'autre part, c'est une précieuse information pour trouver un état juste, où il n'y a pas à essayer de bien faire, il n'y a pas à essayer de faire rire, il n'y a pas à essayer d'être touchant, il n'y a pas à essayer de bien raconter toutes ces choses-là. Il y a à essayer de décrire le monde à chaque instant du point de vue qu'on a apporté. C'est-à-dire c'est une certaine histoire, cette fois-ci, qui va décrire le monde. Et si je mets corps et âme, tous les moyens que j'ai à ma disposition, pour décrire le monde par le, la lorgnette, disons, de cette histoire-là, à ce moment-là, mon corps va bouger, je vais me déplacer ou pas, je vais me laisser emporter par ce qui est en train de se dire, etc. Mais effectivement, ouais, fondamentalement, pour moi, je dirais que raconter, c'est écouter. Écouter attentivement ce qui est en train de se dire. Chaque fois que je viens raconter une histoire, je me dis peut-être cette fois-ci, je vais découvrir un pan du monde que je ne connais pas. Donc c'est vraiment d'écrire. C'est Bachelard qui dit, j'ai dû dire ça quand, dans l'atelier qu'on a fait. Bachelard, il dit,
Ah, il parle bien, Bachelard.
Inventer. Oui, il était très familier, ouais.
Bah, si tu veux, le temps que tu retrouves cette citation, on peut peut-être se faire une pause musicale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui. Oh, je crois que Bachelard, il dit, inventer, c'est décrire pour retrouver.
Thank you.
sur Radio Campus 93.3.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 93.3, émission Oui Dire. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Didier Kowarski, qui vient de nous faire découvrir en musique une suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach par Pierre Fournier. Didier, la musique, la scène font partie de ton art. Toi qui es tombé, qui dis tombé dans les histoires, et que c'est l'histoire qui raconte. Pourrais-tu, pour notre émission, laisser tomber une histoire dans ton corps et nous la faire partager par ta voix ?
Et justement, ce n'est pas une histoire, c'est une information, tout simplement, un scoop, une réunion qu'il y a eu. Je ne sais pas si vous avez su, il y a eu un colloque dernièrement, des papillons qui se sont réunis. Vous avez su ça, non ?
Non.
Oui, ouais, il y a eu une grande réunion des papillons qui se sont réunis. Avec tout le monde, avec le président des papillons, avec tout le monde qui était là, pour se pencher sur la question de la bougie.
Oui.
Et ouais, parce que c'est un problème pour les papillons, la bougie. Et donc, ils ont décidé de lancer des grands débats. Et puis, un papillon qui a dit, c'est pas la peine de débattre et de parler. Moi, je vais aller voir. Et le papillon est parti. Et il a trouvé une fenêtre derrière laquelle se trouvait une bougie. Alors il s'est approché de la vitre, il montait sur la vitre, il a bien regardé, passé sur l'autre côté de la vitre et tout ça, il a regardé la bougie sous tous les angles, il a pris des notes, tout ça. Puis au bout d'un moment, il est reparti, il est retourné au colloque des papillons et il a dit « voilà, je peux vous dire ce que c'est qu'une bougie ». Une bougie, c'est une espèce de chose comme ça, verticale. Et puis, il y a un petit bout noir, quelque chose comme ça, et puis une amande au-dessus, qui est d'une beauté qui est extraordinaire. Et alors, cette amande bouge déjà. Puis il y a le président des papillons qui l'a répondu, qui l'a arrêté, qui lui a dit « écoute, tu ne nous apprends rien sur la bougie ». Alors, il y a un deuxième papillon qui a dit « j'y vais ». Il est parti. Il est retourné à la même fenêtre qui était entrebâillée, et le papillon s'est glissé par l'entrebâillement entre les deux vantaux de la fenêtre. Et il est monté le long de la bougie, il a évité une coulée de cire, il est allé jusqu'au niveau de la flamme, il a tourné autour, il est allé au-dessus, il s'est roussi les ailes, tout ça, il est resté un bon moment. Et puis il est ressorti et il est retourné au colloque des papillons. Et il a dit « voilà, je sais ». Ce que c'est qu'une bougie. Bougie, c'est une espèce de chose, effectivement, verticale, comme ça, et ça pleure. Et ça pleure chaud. Et au-dessus, il y a cette amande qui est complètement fascinante et tout. Mais attention, parce que c'est très, très chaud. Et ça brûle. Et si on tourne autour, ça hypnotise complètement. Et si on va au-dessus, ça élève, ça soulève. Mais c'est très... Et le président des papillons lui a dit, écoute, arrête, tu nous apprends rien sur la bougie. Puis il y a un troisième papillon qui n'a rien dit du tout, qui a filé direct dans la flamme de la bougie. Et ça a fait... Et le papillon a pris pendant un instant la couleur de la flamme, puis il a noirci et pouf, il est retombé sur la table. Il y a eu un petit silence et il y a le président des papillons qui a dit « Ah, bah en voilà un qui sait ce que c'est que la bougie. » Mais il ne va pas revenir pour nous en parler.
Merci.
Voilà, c'est en rapport avec ce dont on parlait. Ouais.
Oui, complètement. Mmh. Et du coup, est-ce que par hasard, tu ne veux pas tomber dans une autre histoire ou qu'une histoire, une autre histoire te tombe dessus ? Je ne sais pas dans quel sens,
une petite histoire de rien. Hein.
De rien, de
ouais,
rien du tout.
À laquelle j'ai pensé tout à l'heure. Je ne sais pas en rapport avec quoi. Si, sans doute avec l'attention dont on parlait tout à l'heure, à tout ce qui se passe. Quoi. Un épicier qui était devant sa boutique, dans la rue, tout simplement. Et puis, il y a Chablis qui est passé. Chablis, c'était une pointure en tout. Et il s'est arrêté devant l'épicier. Il dit, qu'est-ce que tu fais ? L'épicier lui dit, qu'est-ce que je fais ? J'attends un profit. Et Chablis lui a dit, c'est quoi un profit ? Et l'épicier lui a dit, profit, c'est simple. C'est quand, par exemple, un devient deux. Ah, mais Chablis a dit, t'as rien compris. C'est pas ça un profit. Un profit, c'est quand deux devient un.
Ah.
Vous écoutez Oui Dire sur Radio Campus 93.3.
Et oui, Oui Dire, Radio Campus 93.3. Nous venons d'écouter le morceau Bukovina du groupe Chantel, un choix de notre invité Didier Kowarski, qui nous fait le plaisir de passer l'heure avec nous. Mais qui est Didier Kowarski, me direz-vous, si vous avez déjà loupé le début. Oui, merci.
C'est lui, là.
C'est lui.
Il est là.
Grâce à Fred Chat, nous en savons déjà un peu plus sur lui, sur sa personne, son activité et tout ça. Mais comme nous ne nous lassons pas de voyager dans la vie, dans les vies de nos invités, Fred va reprendre son interview pour vous, chers auditeurs.
Je viens de m'apercevoir qu'on a oublié de te demander d'où tu venais, de quelle région tu viens. Et je voulais ajouter donc que Didier est un homme de grande culture. Il a plaisir à citer les grands auteurs. Mais je me demande, où trouves-tu tes inspirations? Dans la littérature, la musique, le théâtre, la peinture? Ou quelles ont été tes influences dans ton métier de conteur? Alors, d'où tu viens et un peu où tu vas?
Ouais, je suis parisien, pur jus. Hein.
Ah, pur jus.
J'ai toujours été parisien. Alors, j'ai des racines qui viennent de Pologne anciennement, puisque Kowarski, c'est l'habitant de la ville de Kowary, en Pologne. Mais ma famille, aussi loin que je peux remonter, était à Vilnius, en Lituanie, depuis le XVIIIe siècle. Puisqu'il y a une dame un jour, une Isabelle Kowarski, à la fin d'un spectacle, qui m'a apporté un arbre généalogique des Kowarski, qui étaient presque tous à Vilnius, en Lituanie. Mais comme Mon grand-père paternel, qui est arrivé en 1907 à Paris, avait été chassé en fait par les pogroms. Il était juif. Ben, il avait la haine pour tout le monde, pour les Lituaniens, pour les Polonais, pour les Russes. Donc il a gardé absolument aucune tradition. Il a transmis à son fils aucune tradition qu'il avait là-bas, si ce n'est quelques recettes de cuisine, sa femme. Donc voilà, j'ai pas vraiment de terroir, quoi.
D'accord.
Maintenant, toutes les influences et tout ça, j'apprends beaucoup dans les écrits et les réflexions des plasticiens, des peintres. J'apprends énormément dans tout ce qui a été écrit et dit par les peintres, parce qu'ils ont une manière de formuler leur recherche qui est très claire et qui est très claire pour tous les arts vivants.
Bien. Alors, tu n'es pas que conteur, tu as d'autres cordes à ton arc. Tu écris aussi des histoires. L'une d'elles, Les Deux Maisons, a été publiée chez Didier Jeunesse.
Oui, mais je ne consacre pas une partie de mon temps à écrire actuellement. C'est Didier Jeunesse qui m'a demandé effectivement de coucher par écrit une histoire qu'il m'avait entendu raconter plusieurs fois. Donc ça a donné, avec un partenariat avec un illustrateur, un livre qui s'appelle Les Deux Maisons, ouais, qui a eu un gros succès, qui a eu un prix littéraire même.
Oh, lequel ?
Le prix Chronos, qui est décerné par la Fondation nationale de gérontologie. Oui, bah, ça va. Hein. C'est quand même un prix littéraire.
Si
le livre s'adresse à l'enfance, c'est des enfants qui choisissent un bouquin pour la Fondation de gérontologie. Et je peux même préciser que le prix Chronos, de la Fondation de gérontologie, c'est un sablier. C'est un peu cruel.
Ouais.
Et qui fait 12 secondes, d'ailleurs.
Bien. Et donc, le conteur a une voix, mais tu as un corps aussi. Pour t'avoir vu sur scène, tu bouges
corps,
beaucoup.
Hein.
Non, mais sur scène, tu ne fais pas que parler.
Ouais.
Voilà. Quelle importance accordes-tu à l'un, à l'autre?
J'ai jamais travaillé l'un et l'autre séparément. Hein. Il se trouve que moi, la parole, les mots me font bouger. Donc, je ne cherche pas... Quelquefois, en sortant de scène, on me demande si j'ai fait du mime. Alors que... Non, du tout. Pas du tout. Je n'essaye pas d'exprimer quelque chose par le corps. Je laisse le corps bouger librement. Et donc, le corps est un prolongement de la parole et s'anime à la vibration de la parole. Si tu veux, en amont de tout ça, il y a la vibration. La vibration de la voix, la vibration du corps, la vibration de la salle dans laquelle on est. J'ai toujours le sentiment que le lieu dans lequel je suis est l'instrument de musique que j'essaye de faire vibrer. Alors forcément, le corps, la parole, le geste, tout ça y contribue. Et les spectateurs, bien entendu, qui sont là.
D'ailleurs, je trouve que tu as une très belle phrase en disant que tu ne définis pas l'art que tu exerces, mais l'attitude que tu adoptes pour l'exercer.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, oui. C'est-à-dire que l'art que j'exerce, je le laisse me traverser pour qu'il se définisse au fur et à mesure. Je crois que plutôt que de préparer son matériau, l'artiste du spectacle vivant, il a essentiellement à se préparer lui-même, à se mettre en état de résonance, d'attention, pour se livrer complètement à l'instant qui va se produire à la faveur de la présence des spectateurs.
À la faveur de la présence des spectateurs. Oui, tu aimes bien cette phrase et elle dit bien ce que ça veut dire.
Et oui, bien sûr.
À la faveur de la présence, pas pour le spectateur, mais
c'est ça,
à la faveur de sa présence.
Mmh. Ben oui, c'est le spectateur qui permet que l'exploration à laquelle je me livre se produise. Et bien entendu, tout le monde en profite. On explore ensemble ces recoins du monde que je viens essayer de mettre en lumière. Je prends les histoires pour des rêves. C'est un peu comme des rêves pour moi. C'est-à-dire, non pas des rêves dans le sens d'idéaux, mais des rêves oniriques, c'est-à-dire des messages que l'inconscient envoie au conscient pendant une courte période, afin de dévoiler certaines choses cachées. Je pense que les contes, les histoires, depuis la nuit des temps, sont des messages que l'humanité s'envoie à elle-même. Et si c'est les mêmes histoires qu'on raconte depuis 10 000, 20 000 ans, il s'agit de les revisiter sans cesse. Donc de les reconsidérer comme des rêves qu'on fait à voix haute afin que les messages qui y sont contenus se libèrent et soient révélés à chaque fois.
Mais du coup, tu fais toute cette préparation physique et mentale avant de rentrer sur scène. Est-ce que cette histoire, elle est déjà présente dans cette préparation-là ? Ou est-ce que tu arrives à être surpris par ce qu'elle t'apporte durant un spectacle ?
Je travaille beaucoup sur l'histoire, mais en général, dans les moments qui précèdent le moment où je vais venir devant les spectateurs, j'oublie. J'essaie d'oublier, au contraire, le contenu. Par contre, j'essaie d'être extrêmement attentif. Alors, il m'arrive parfois de volontairement de faire des mouvements, de me promener, d'écouter, de respirer, tout ça. Mais en tout cas, l'histoire ou le questionnement que je vais amener un peu plus tard ne se retrouve là qu'à l'état vraiment de vibration. C'est-à-dire, l'histoire, disons, a une certaine configuration. Elle me fait un certain effet. Donc, de temps en temps, je vais aller voir où en est cet effet-là. Mais absolument pas. Je ne prends absolument plus en considération, dans ce moment-là, le contenu, la formulation, etc.
Et nous t'avons vu sur scène seule. Es-tu parfois accompagné ?
Oui, très souvent, ouais. Le plus souvent, d'ailleurs.
Alors, accompagné par qui ?
Je travaille avec un musicien, un saxophoniste, qui joue de l'électronique aussi, du banjo et de la scie musicale depuis une vingtaine d'années, qui est à Toulouse. Et puis, je travaille avec plusieurs musiciens de Toulouse. Je joue un spectacle avec quatre musiciens qui sont à Toulouse, un autre avec deux musiciens. Marc, donc le saxophoniste dont je parlais, fait partie de ces musiciens. Et puis, je joue un spectacle aussi avec trois musiciennes baroques. Une musicienne qui joue du clavecin, une autre de la harpe et une autre de la flûte.
Belle vidéo sur Internet, d'ailleurs.
Ah oui, c'est possible. Ça s'appelle « Le dernier regard de Ridis ».
Eh bien, puisqu'on parle d'Internet, tu vas nous parler, enfin, diffusion. Où est-ce qu'on peut trouver, justement, tes coordonnées, les lieux où tu joues ? Et voilà, où est-ce qu'on aura le plaisir de te découvrir dans les semaines qui viennent ?
Il y a un collectif d'artistes de Toulouse qui s'appelle Freddy Morrison, avec deux D, un Y. Et là-dessus, il y a toute l'actualité de ce que je fais qui est diffusée, avec en même temps que d'autres artistes, des musiciens essentiellement. Et puis, je vais aller à Toulouse, là, dans deux jours. Je vais jouer avec Marc, donc, et Alex, qui joue de la guitare et de la batterie.
Et toi, spectacle. Tu comptes ?
Moi, je raconte ce qu'il y a dans certaines histoires de Tom Waits. Tom Waits, qui est un musicien, un poète, un chanteur américain, qui est un immense artiste, entre guillemets, qui a une trajectoire très, très riche et très, très forte depuis 73 ou quelque chose comme ça, qui continue toujours aussi surprenant et inventif. Et comme les paroles de ce qu'il chante, c'est très difficile à comprendre, moi, j'ai eu envie de me pencher dessus. Alors, je ne dis pas les textes de Tom Waits, mais à partir du texte et de l'univers de Tom Waits, je raconte ce qu'il y a dans certains de ces morceaux. Et puis ensuite, je vais aller à Montpellier avec Jihad Darwish et Ali Mergache. On va faire d'abord on va bavarder, on va parler de l'absurde et notamment Nasreddin Hoxha. Mmh. Et puis ça va être le samedi 18 et le dimanche 19, on va faire un spectacle tournant où on va raconter en trois lieux différents, deux fois, et ensuite on va se retrouver au même endroit pour raconter ensemble. Il y aura pas mal d'histoires de Nasreddin. Et puis le thème de cette manifestation, c'est autour de l'absurde. C'est dans le parc du Château d'Eau à Montpellier. À Toulouse, le 16 mai, c'est au Mandala. C'est un très très bon lieu à Toulouse qui fait venir des musiciens improvisateurs beaucoup. Et puis ensuite, je vais partir à Quimper.
Bien.
Ouais, ouais. Et à Quimper, je vais participer aussi à une espèce de promenade dans des lieux assez singuliers de Quimper où je serai en solo là. Et puis ensuite, je vais aller à Limoges.
Zou. Pas très loin de chez nous.
Voilà, à la BFM de Limoges. Bibliothèque
masculine à la fois.
Voilà. Et ça, ce sera le 30 mai. Voilà pour les semaines à venir.
Super. Eh bien, merci pour toutes ces infos et tout ce que tu nous as raconté qui nous donne envie d'aller gratter, voir sur Internet si on peut en savoir plus et aller te voir aussi. Et peut-être te verrons-nous un jour dans la région, ce que nous espérons.
Merci en tout cas de votre accueil.
Merci beaucoup.
Petite pause musicale.
Que marca mi huella. Tengo una pinita que canta dolor flotando. Tengo una fierita gritándome desde dentro. No es mí, no es yo. Tengo una penita que sopla, no ventila. Mi remolón, mi remolón. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. ¿Pa' qué, pa' qué, pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. Pestañea, no duerme cuando habla de ella. Vuelo remolón, no anda quieto. Vuelo revolcón, no papadea. No pestañea, no duerme cuando habla de ella. Puerta, óyele.
Oui dire sur Radio Campus 93.3.
C'est parti, Fred.
Ah bah, excusez-moi, je m'oublie. Il est tellement impressionnant, Didier Govarsky, je ne sais plus où j'en suis. Non, au début, vous étiez impressionnant. Maintenant, on est ravis de t'avoir rencontré. On en est même au tutoiement. Ça nous a donné envie, tous ces spectacles. Et chez nous, Fred, est-ce qu'il se passe des choses autour du conte ?
Bien sûr que oui. L'actualité du mois, c'est le Qu'en dira-t-on ? Chez nous, donc, ce festival de contes qui va se dérouler du 27 au 31 mai à la maison de quartier de Croix-de-Néra, d'Évergne et de Champratel. Donc, le Qu'en dira-t-on, qui en est à sa 15e édition, va programmer une majorité de spectacles jeunes publics de 6 mois à 15 ans avec de grands conteurs et teuses internationales, comme on y côtoiera notamment Djihad Darwish.
Oui, qui nous présentera Contes de sagesse et d'Orient le lundi 27 à 15h. Rencontre sur le pont de Bagdad le mardi 28 à 20h30. Et également à 14h30 le jeudi 30, l'épopée de Gilgamesh.
Et je précise juste pour nos auditeurs que ce festival est un festival ancré sur les quartiers. Et Djihad Darwish va rencontrer les collégiens à l'occasion de cette rencontre-là. Et il y aura aussi sur la première semaine, puisque le festival proprement dit commence le 27, mais la semaine précédente, il y a plein de choses qui se passent aussi dans les écoles,
dans
etc.
Dans les écoles, oui, tout à fait. Alors il y aura aussi Arlène Thibault,
que vous pourrez retrouver le lundi 27 mai à la maison de quartier de Croix-Néra dans un spectacle qui s'appelle « Dans le temps de le dire » à 15h. C'est un spectacle pour les 6-12 ans, ça dure 1h15. Voilà, je vous engage à y aller.
Alors on verra aussi Ludovic Suliman.
J'en ai oublié, excuse-moi, je n'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Arlène Thibault, vous pouvez aussi la voir le mardi 28 mai à 14h30 à la maison de quartier d'Évergne dans Contes d'ici et d'ailleurs pour les 8-11 ans.
Et pour Ludovic Suliman, le vendredi 31, il sera là toute la journée, donc à 9h et à 10h pour Toc Toc Toc, qui est là, pour les 3-6 ans. Et puis, vous le retrouverez le soir avec Zheureux. Je crois qu'il me manque un bout d'ailleurs. J'ai noté que Zheureux, mais il y a peut-être encore autre chose derrière.
Je vous l'ai dit, Didier Kovarsky, il est impressionnant, ce coup on en est.
Et donc là, bah, c'est en plus le spectacle qui clôturera le festival.
Alors, il y aura aussi Cécile Bergam qui va faire Chapeau de beurre et Souliers de verre le jeudi 30 mai à 10h pour un public de 4 à 6 ans. Et le jeudi, toujours le jeudi, à 14h30, dans le pli d'une jupe pour les 5-11 ans.
Ah, moi j'ai 6-10 ans, dis donc, ils ne disent pas la même chose. Bah, bravo le programme. Oh. Et c'est à la maison de quartier d'Evergne.
Il y aura aussi Gilles Bisouerne.
Alors, je l'ai perdu.
Moi, je l'ai le jeudi 30 mai à 10h pour Même pas peur à la maison de quartier d'Évergne pour les 4-6 ans.
Oui, mais alors juste avant, le mercredi 29 à 15h, il va nous conter Vrai mensonge pour les 6-7 ans.
Alors, on retrouvera aussi Lila Khaled.
Ah, Lila Khaled. Alors Lila Khaled passe le mercredi 29 à 10h pour Petite gourmandise que l'on retrouvera
à 15h le même jour, et tout ça, ça se passe à la maison de quartier Champratel-la-Plaine.
Et si vous n'en avez pas assez, et ben revenez le vendredi 31, où elle comptera à 9h30, puis à 10h30, panier d'histoire. Alors là, il me semble que c'est aussi à Croix-de-Néra, et c'est pour les 3-6 ans.
Il y aura aussi Boubacar Ndiaye.
Ndiaye, je l'ai entendu, je l'ai vu à Vassivière l'été dernier.
Oui,
c'est très très bien.
Oui.
Et ben on aura le bonheur de l'entendre le mardi 28 à 10h pour de problèmes d'oreilles, de grandes bouches à petites oreilles. C'est pour les 3-6 ans et c'est à Croix-de-Néra aussi.
Et encore Simon Gauthier.
Alors Simon Gauthier, on pourra le retrouver le mardi 28 mai à 10h à la maison de quartier d'Évergne. Faut pas le dire, le titre du spectacle, pour les 4-7 ans.
Et à 14h30, l'écume des mots pour les 6-12 ans. C'est un spectacle qui dure une heure. Et là, par contre, ce sera la maison de quartier de Croix-de-Néra.
Voilà. Et avec tous ces conteurs, il y aura aussi les régionales de l'étape, comme Françoise Guagou, Christine Buteau-Bourguignon et Françoise Glière.
Et il n'y aura pas que ça. Moi, je vous le dis, hein, venez, venez au festival. Parce que les journées commencent à 9h avec Afida Azaoui qui nous fait des petits-déj comptés. Et puis, on continue toutes les soirs. Il y a des impromptus, il y a des animations, il y a des repas animés avec Alternative Poésie et les associations de la maison de quartier de Croix-de-Néra et des alentours qui pourront animer, entre autres, je crois que c'est le mercredi de 19h30 à 23h, donc sacrée soirée, mais attention, c'est sur réservation. Puis il y aura des expos, il y aura les CMA, il y aura plein de choses. Moi, sincèrement, je vous conseille. Hein.
Il faut y aller. Et on espère qu'une prochaine édition accueillera Didier Kowarski, donc, qui est avec nous ce soir.
Parce que c'est une très bonne programmation qu'il y a dans cette édition du festival.
Hein. Voilà. Alors n'hésitez pas à venir traîner vos oreilles à Clermont-Nord. Il y aura aussi des apéro-contes, on l'a dit, des impromptus réalisés par les conteurs du COA, le collectif Oralité Auvergne, dont on vous a parlé à la dernière émission, et qui souhaite impulser dans la région un développement de l'oralité dans toutes ses dimensions.
Et si vous êtes frustré, hein, que vous ne pouvez pas y aller, par exemple vous travaillez, hein, c'est une bonne excuse, eh bien écoutez Radio Campus tous les matins entre 7h et 9h dans la matinale. Monique viendra pour vous faire entendre de petits morceaux que d'autres conteurs, d'autres personnes auront attrapés durant toutes les journées. Et puis elle vous présentera également les journées.
Et à vous. Alors, qu'est-ce qu'il y aura d'autre, Monique ?
Eh bien, avant ça, il y aura le Conseil général propose sa 4e édition du Printemps des Bambas, nouvelle appellation du Printemps des Bébés. Alors, c'est du 6 mai au 16 juin dans tout le département du Puy-de-Dôme, spécialement adapté pour les enfants de 6 mois à 6 ans. Renseignements sur www.puydedome.com ou au 04 73 42 24 86 auprès de Madame Edith Liaboeuf.
Voilà, il y a aussi les contes d'ici et là par Laurence Calabrèse à Le Zoo le 18 mai à partir de 19h et le 24 à Malintra à 17h30. Toutes les infos sur le site espigaouegaré.com.
Mais également le festival BD médiéval d'Artias à Retournac, dans la Haute-Loire. C'est la 2e édition, les 18 et 19 mai 2013. Soirée conte, légende, musique celtique et médiévale avec le groupe de conteurs Christian Pralon, groupe Squavo. Entrez donc. Renseignements au 04 71 56 15 52 ou sur le site bdartias.meabilis.fr.
Voilà, alors il y a aussi le vendredi 24 mai, ceux qui l'ont manqué à Rion en février pourront aller écouter Yannick Jolin dans son spectacle Conteur, Conteur au Sémaphore. C'est un florilège de ses meilleures histoires depuis des 25 dernières années. Et ce spectacle s'adresse à tout public à partir de 11 ans. Monique, tu veux nous parler aussi?
Il s'en passe encore
du
des
mercredi
choses, ça n'arrête
15
pas.
Mai, c'est l'heure du conte. Il court par la campagne par la compagnie du Héron. Sur le parvis de la médiathèque avec le conte à 15h, spectacle tout public à partir de 6 ans, gratuit. Pour plus de renseignements sur le site internet www.marinemagrini.com.
Voilà, et aujourd'hui commence le Festival des Arts du Récit dans l'Isère. Alors, toutes les infos sur artsdurécit.com. Peut-être Didier ou Fred, vous voulez nous donner quelques infos?
Oui, bah, c'est un festival auquel je participe assez souvent et qui est toujours très inventif, très surprenant. Et il y a Yannick Jolin qui passe aussi avec son spectacle Conteur, Conteur, qui est plus qu'un florilège de ses meilleures histoires, hein, parce qu'il vient vraiment décaler le point de vue du conteur. C'est vrai. Vient vraiment essayer de regarder les choses sous un autre angle et puis bousculer les choses. Quoi.
Nous l'avions rencontré il y a quelques temps au sujet de ce spectacle et c'était vraiment passionnant. Et puis il y a plein d'autres conteurs, Bruno de la Salle, Michel Nguyen et j'en oublie. Ah,
Myriam mais, Pellican allez, Myriam aussi qui Pellican, vient faire des folies. Ouais.
Jeanne Ferron. Mm-hmm.
Jean-Claude Bray.
Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur Internet. Voilà, ça se passe à Grenoble et dans les environs.
Voilà, alors avec tout ça, abandonnez vos écrans, n'hésitez pas à sortir pour régaler vos yeux et vos oreilles avec le spectacle vivant.
Oui dire, Radio Campus 93.3.
Et voilà, ça va être l'heure de nous quitter. J'en suis vraiment désolée, j'aurais bien continué avec vous. Alors je dois préciser que toutes les musiques que vous avez écoutées pendant cette émission, c'est Didier qui nous a fait le plaisir de les apporter. Et il m'a tellement impressionnée que j'ai oublié de préciser tout à l'heure que le dernier morceau, c'était un morceau d'une fanfare sicilienne qui s'appelle Banda Ionica. C'est bien ça ?
C'est ça, Banda Ionica.
Je vais dire au revoir à tout le monde. Les filles, je vous dis un au revoir collectif.
Allez, au revoir, ouais.
Merci
au revoir.
Beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir une énigme avant de se quitter ? Hein, Pierre, l'énigmatique Pierre ?
Bien sûr, pas de problème. Alors d'abord, je vais vous donner la réponse de la dernière énigme.
Oh oui !
Alors, en mauvais élève que je suis, je ne l'ai malheureusement pas notée. Mais comme vous êtes de bons auditeurs, vous vous en souvenez. Alors, je vais quand même vous donner la réponse. C'est l'aiguille. Et maintenant, pour vous, je n'ai pas une énigme, mais une charade. Alors, mon premier est bavard. Mon deuxième est un oiseau. Mon troisième est au chocolat. Je répète. Mon premier est bavard, mon deuxième est un oiseau et mon troisième est au chocolat.
Ouais, facile. Hein.
Facile. Didier, il a déjà trouvé et même il a une autre énigme pour vous.
Ouais, j'ai une énigme, moi. 5 qui poussent et 10 qui tirent. C'est quoi ?
Eh bien, Larelle, toutes ces réponses, on vous les donne dans 15 jours. Je ne sais même plus quand c'est la prochaine émission. Si, c'est le 10 juin où vous pourrez retrouver les conteurs qui auront été interviewés pendant le festival du Condiraton. Voilà, cette fois, c'est vraiment l'heure de se quitter. Didier, merci et au revoir.
Merci
à vous. Peut-être à bientôt. En attendant, chers auditeurs, chouchoutez vos oreilles, dors l'eau télé, prenez-en soin et pensez à nous les rapporter la prochaine fois.
Oui dire.
Sur Radio Campus 93.3. Oui dire.